Bonjour, c'est Izika et vous écoutez Samiatique.
Le podcast Samiatique, on en a rêvé et on l'a fait. Épisode numéro 3.
Voilà, ça la tchadiade. Allez, Naro, épisode Bovoti. Bienvenue à vous qui écoutez maintenant le troisième épisode de notre série de podcasts thématiques des conversations autour du genre et ou des sexualités à Madagascar. Aujourd'hui, nous accueillons Izika, ce jeune homme pétillant, drôle et plein d'intelligence qu'une amie très chère m'a présenté il y a quelques années de cela. Izika est un jeune écrivain, il partage ses écrits, de la poésie pour la plupart, sur sa page Facebook, Loisamanguina, dans lesquelles il aborde la question des altérités, des visions alternatives et de l'intériorité de soi. J'entretiens avec lui une amitié très forte, c'est quelqu'un qui m'inspire, qui me fait rire et avec qui j'échange énormément sur la littérature, le monde qui nous entoure, nos projections, l'amour, la vie, etc. Izika et moi sommes nés et avons grandi dans la même ville, à Dégosuarez, au nord de Madagascar. Il était important pour moi de nous remémorer notre enfance, quasi identique à quelques années près, quand il était possible, enfant, de vivre et s'épanouir loin de constructions strictes du genre, du féminin et du masculin, des représentations de ce que devrait être une femme ou un homme. Izika évoque donc une enfance riche et insouciante avec des parents et des adultes en général qui signalaient sa différence tout en le laissant vivre sa vie d'enfant. Moi, dans l'enfance et jusqu'à ce que je sois jeune adulte, on m'a traité de Sarndai, un mot avec lequel on qualifie une fille qui n'est pas ou qui ne fait pas très féminine dans sa manière d'être ou de s'habiller. Ce n'est pas dit d'une manière méchante ou sur un ton de reproche, mais comme une remarque, une constatation. Je ne peux pas dire que j'ai souffert véritablement de ces remarques, mais très tôt, ça m'a fait me questionner sur ce que j'étais, pourquoi je ne ressemblais pas à la plupart des filles, qu'on ne classerait jamais ainsi, et à qui l'on reconnaissait coquetterie et joliesse. Dans mon souvenir, bien que j'ai été assez fière d'être Sarndai, à l'adolescence, ce mot a fini par me faire penser que j'étais laide, peu séduisante ou négligée. Mon expérience diffère bien sûr de celle d'Izika, lui a été traité de Sarmbav, l'autre versant de Sarndai, et à cause du sexisme, Sarmbav porte un poids nettement plus péjoratif que Sarndai. Littéralement, Sarndai veut dire image de l'homme et Sarmbav, image de la femme, une terminologie dont nous discuterons un peu plus tout à l'heure. Partons donc en compagnie d'Izika, bonne écoute.
Anarganaka, Izika.
Mon nom est Izika.
25 ans.
J'ai 25 ans. Je vais avoir 26 ans en 2021.
Zazeng ni terre que ça détombe.
Je suis né et j'ai grandi à Digo. C'est ici que j'ai passé presque toute ma vie, où j'ai fait mes études, où j'ai grandi. Quand tu es encore enfant, par exemple moi, vraiment, il n'y avait aucun problème, tout allait de soi. Je parcourais et visitais toutes les maisons. J'étais amie avec tous les enfants du quartier. En plus, à l'époque, il n'y avait pas encore de télé, de réseaux sociaux comme Facebook et compagnie. Ce n'était pas encore lancé, aussi lancé qu'aujourd'hui. Du coup, tous les enfants du quartier jouaient ensemble. On jouait au Capo Calomère, au Alibaba. Après, on allait tous visiter la maison des uns et des autres. Par exemple, quand tu vas aller jouer, ton ami vient te chercher ou c'est toi qui viens le chercher et vous partez flâner ensemble ou alors tu vas faire du vélo. Vraiment, tout allait de soi. Comme une petite bande, garçons et filles jouent tous ensemble. En plus de ça, du fait que nos parents aussi ont des gens avec qui ils s'entendent, leurs amis ou des gens de la même communauté qu'eux, par exemple à l'église ou au travail, juste au quartier. Du coup, ces adultes, ses parents, aussi avec qui ils sont amis, nous considèrent comme leurs propres enfants aussi. Quand on est enfant, on dirait que les choses vont de soi. On ne connaît pas encore vraiment qui on est, ce qu'on est, mais on entend quand même des gens autour de nous sortir des propos. Ah, cet enfant, il est spécial. Souvent, ils ne le disent pas méchamment, mais ils font tomber doucement des mots comme le comportement de cet enfant ressemble un peu à un comportement de fille. Ou bien, cet enfant est un peu sarmbave et efféminé. C'est comme ça qu'ils le sortent. Ils ne le font pas méchamment, mais comme un avis, une opinion. On n'en a même pas souvenir, mais quand on grandit, c'est là que ça commence à peser le regard des gens. Comme si quand tu es enfant et tu joues à fond, en allant où tu veux, en faisant ce que tu veux, quand tu grandis, tu te replies de plus en plus à l'intérieur de toi. Le regard des gens, leurs propos deviennent pesants pour toi. Tu vois que leurs propos sont de plus en plus forts. Après, il y a des gens qui sont direct méchants, qui te sortent des mots et des gestes, des comportements qui font peur. Est-ce que cette personne va me frapper ou elle va m'insulter? Il y a même des parents, ils voient que leur enfant est spécial pour tuer, étouffer la bizarrerie de son enfant. Ils vont direct être très sévères par rapport à ça. Mais la plupart du temps, il n'y a rien. Vraiment, souvent, il y a des parents où c'est leur amour qui prime surtout. Ils aiment leurs enfants. Comme dans mon cas, il n'y a jamais eu de... Oui, des fois, il y en a, par exemple, quand il y a quelque chose qui m'agace et que ma réaction semble trop, comme entre guillemets une crise d'hystérie, c'est là qu'il parle. Par exemple, mon père, il dit « Ah, c'est les filles qui ont ce genre de réaction. » ou alors ah, ça m'inquiète ce que tu fais. Ou bien, des fois, il y a un truc qui me dégoûte. Ma réaction par rapport à ça semble disproportionnée. Du coup, ma mère qui dit ne fais pas ça parce que c'est pas comme ça qu'on fait quand on est un garçon.
Fa Iro
Mais eux et leurs amis très proches n'ont pas ce genre de propos ou de gestes. C'est presque juste des amis qui ont le même âge que toi ou des gens plus âgés, pas très proches. Ce sont les gens les plus éloignés qui arrivent à sortir des mots comme ça.
À l'école aussi, surtout.
Tu vois, lorsqu'on joue, surtout dans le sport, ça commence à craindre un peu pour toi, tu vois. À chaque PS, tu as pris au collège à 10, 11, 12 ans, c'est là que tu morfles bien, quoi.
Ils ont pas de attisé.
Ici, les filles semblent
plus
inaperçues.
Oui, et se fondre dans le décor.
Et arrive à se fondre plus dans le décor. Mais quand tu es un garçon efféminé.
De mes 10 ans à mes 14 ans au collège, j'ai subi. Vraiment, c'était une forme de harcèlement scolaire. Parce que. Après, c'est un peu n'importe quoi, en fait, le collège. Vu que
t'es encore petit, pas encore mature,
un autre.
Toi-même, tu fais n'importe quoi.
Genre, t'es un
mais
garçon.
Avec ça,
et
tu subis aussi.
Oui, j'ai subi. Hein. On m'a traité de tous les noms. Genre, j'étais en 6e, 5e. Les garçons de 4e, 3e me faisaient. M'insultaient, quoi. Enfin, me faisaient me traiter de tous les noms. Genre, on m'appelait fillette, ou bien, tu vois, fournisseur exact, en direct, ils vont, ah, ils ont arrivé dans un bocha, Izika.
Et là, il y en a un qui a dit,
tu vois,
Dieu, quand il a fabriqué Izika, il s'est planté.
Un organe reproducteur génital masculin.
Reproducteur génital masculin.
Ou carrément, parce que c'était des trucs genre PD, tapette, pédale. Au lycée, c'était un peu autre chose.
Vu que les gens commencent à se respecter à partir de 15
ans,
15,
16 ans, 17 ans, 18 ans. Il y avait même des plus âgés. Attends, je vais te raconter une anecdote. En seconde, j'étais dans une classe de personnes de la même génération que moi, genre 96, 95, 96, 97. Et je pense qu'il y avait plus de concurrence aussi par rapport à nous, en fait, à ce qu'on demandait de nous, à ce qu'on demandait de faire. Et vu que j'étais un peu... Oui, pecha pecha mbava, et je faisais un peu mon intello et tout, mon intéressant, y a des garçons qui me voyaient mal, et ils n'osaient pas le dire directement. Ils écrivaient des trucs, par exemple, ils écrivaient au tableau, sur une table juste devant la mienne, PD, et il mettait une flèche, genre qui dirigeait, qui était en direction de ma place où j'étais assis. Et étrangement, en première et en terminale, vu que j'ai changé de classe, je suis allé en littéraire, et la plupart des personnes qui étaient dans la même classe que moi étaient allées en scientifique. Et c'était des personnes plus âgées, genre qui avaient pratiquement la vingtaine. Et ils ont été gentils avec moi, ils m'ont bien accueilli, comme si j'étais le tout petit de la classe, et que, genre, tu vois, ils m'appelaient même leur demi-portion. Ça m'a surpris, et agréablement surpris. Et du coup, t'as me lissé un zinzinzar, et qui... Oui, m'a tout
et du coup, au lycée, oui. J'étais celui qui avait confiance en lui. J'étais moi, quoi qu'il se passe, je suis comme ça, donc il y a quoi. Mon état d'esprit était comme ça au lycée.
Mais
vers l'université, quand je suis devenu jeune adulte.
En fait, à l'adolescence, Zafan, comment se passe ce problème?
En fait, à l'adolescence, j'avais déjà eu un problème par rapport à qui je suis.
Pas l'adolescence, mais la pré-adolescence. Genre 13, 14, 15 ans.
Pas l'adolescence, mais à la pré-adolescence. Genre 13, 14, 15 ans. Quand je suis arrivée au lycée, c'était parti. J'ai eu confiance en moi. Et arrivé à jeune adulte, c'est revenu. Mais maintenant, à 25, 26 ans, ça commence à revenir.
Voilà, Zaza. Je suis comme ça. Il faut avoir les bonnes personnes autour de soi. Dans un coup, c'est toi qui as choisi une famille que tu choisis, des amis qui deviennent ta famille. Là aussi, ça te permet de. Tu es dans une communauté, en fait, et ça te permet d'avoir envie de faire partie de ce truc, quoi, de cette vie. Quand t'es enfant, t'as une sexualité polymorphe. Tu joues à papa, à maman, et des fois c'est toi le papa, des fois c'est toi la maman. Mais au fur et à mesure, je me rendais compte que j'étais plus attirée par les garçons. Rien que tu as retenu au fond de moi, que voilà quoi.
Je sens très bien au fond de moi que voilà quoi.
Incapable de tomber amoureux, d'avoir envie d'être. Dans une relation amoureuse, érotique, je serais capable d'avoir ça, quoi, cette attirance-là, que envers des garçons. Et du coup, c'est vraiment depuis tout petit, hein, genre t'as 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, tu te rends compte que ça change pas. Tu entends des phrases comme ça que d'autres personnes sortent, des personnes plus grandes, des adultes, genre une tante, une cousine qui dit « Ah, c'est des choses qui changent, tu sais, vers... » quand ils discutent entre eux. « Vers tel âge, ben, on change. » Ben, moi, je me suis rendu compte que je changeais pas. Je grandissais, mais non, ça changeait pas. Et c'était un peu bête aussi, c'était un peu dommage, parce que je tombais souvent amoureux de garçons, mais eux, ils ont toujours été Ils ont toujours été méchants. Et du coup, je tombais amoureux de personnes qui étaient méchantes avec moi. Je te laisse imaginer le délire. Sinon, il y a des filles aussi, hein. Des filles, mais c'est bien. Pourquoi ma fille
il y a des filles qui arrivent à tenir des propos. Je t'ai dit qu'il y a des garçons qui sont méchants, homophobes et tout.
Il y a des filles qui sont méchantes et homophobes aussi. Je ne sais pas c'est par quel mécanisme, mais ouais, il n'y a pas que les gars. Par rapport à l'hostilité envers. Voilà, c'était juste pour une remarque, nota bene. Non, c'est une atmosphère générale. Tout le monde, en fait, la plupart, genre 85% des gens, ben, ils sont hostiles à tout ce qui est sexualité alternative. C'est comme ça, quoi. Ben, donc, du coup, pour les garçons, ben, c'est tous les garçons qui sont homophobes. Enfin, c'était comme ça à l'époque. Maintenant, je pense qu'il y a du changement. Ça doit être dû à la télé aussi. C'était depuis toujours, hein. Je flirtais pas d'ailleurs, enfin, ils voyaient bien que je les regardais avec insistance et tout. Tout m'a des refs, monsieur.
Et direct, ils sont méchants, genre ils te rejettent.
Mais quand je te dis que c'est une atmosphère générale, c'est partout, hein, dans toutes les communautés, que ce soit religieuse, tous les groupes. Même un truc qui s'est passé à l'église. L'année de ma première communion, c'est là que ça a commencé. J'ai commencé à avoir des soucis dans ma tête à cause de ça. C'était le discours sur le péché, l'enfer, la culpabilité, qu'on est. Tu vois, et je pensais que j'étais une mauvaise personne. Et là, j'ai vraiment eu beaucoup de. J'ai eu du mal à me relever de cette période-là, de 13, 14, 15 ans-là. Enfin, en général, ils disent rien. Enfin, non, rejeter une joie.
Mais en général, ils disent rien. C'est juste qu'ils te rejettent. Mais c'est seulement maintenant qu'on commence à être grand qu'il y a ce flirt dont tu parles. Enfin, c'est là que ça commence à avoir du flirt, quoi. Et puis, tu vises déjà un peu sur qui tu peux le faire. Et puis, comme je te le dis, les gens aujourd'hui commencent à changer. Ils regardent des séries à la télé, sur Netflix. Tu serais surprise de voir à quel point les gens maintenant sont insolents, effrontés. Surtout les dernières générations, les 2000, beaucoup sont délurés. Ouais, sur les réseaux sociaux. En plus, il y a beaucoup de types de personnes.
T'as pas remarqué, toi, l'évolution de des mentalités durant les 20 dernières années.
On dirait que les anciens activistes dans les années 60, 70, 80, 90, c'est maintenant qu'on voit que leurs luttes ont porté leurs fruits au niveau des mentalités.
Sinon, ben pour la drague, je pense que c'est sur les réseaux sociaux. Mais moi, je ne suis pas du genre, je veux dire, tchèque, foutenis,
je ne sais pas. Je ne suis pas très douée par rapport à ça.
Je suis plutôt le genre de cruche qui tombe amoureux, tu vois, qui ne drague pas trop. En fait, je ne me vois pas parent, déjà. Je n'ai pas envie de faire d'enfant, je n'ai pas envie de. Je pense que, voilà, mon histoire commence et s'arrête avec moi. Mais par rapport à Léo et Milanam,
oui, sinon, je voudrais avoir un ami.
Franchement, mon rêve, c'est d'avoir. C'était ça, hein, depuis longtemps, j'ai toujours rêvé d'avoir un meilleur ami avec qui j'essaierai tout ce qu'il est possible d'essayer. Ouais, j'écris, en fait. Je veux dire, j'écris. Et les thématiques sur lesquelles j'écris, c'est l'altérité, les altérités, le féminisme. C'est une vision, en fait. À chaque fois, j'essaie d'avoir de promouvoir les visions alternatives du monde, de la vie, de tout ce qu'il y a, de tout ce qui se fait. Mais dans alternatif, il y a simplicité aussi. Hein. Des fois, c'est très bien quand c'est très simple. Du coup, c'est une vision plurielle, on va dire. J'ai beaucoup de mal à me projeter dans l'avenir, mais Si je devais me projeter, ça serait ça. Je serais quelqu'un qui écrit avec un meilleur ami à ses côtés. Voilà. Et des amis qui sont une famille aussi. Je pense que
je pense que c'est un truc à l'intérieur de toi. Tu connais les choses qui te révoltent, les trucs que tu trouves injustes. C'est-à-dire que c'est pas toi qui choisis, mais c'est déjà en toi.
Oui, je suis militant.
Donc oui, je suis militant parce qu'il y a des choses qui me mettent en colère, que je trouve indignes, genre l'emprisonnement des gens, la discrimination des personnes qui ne nous ressemblent pas. Alors que toutes ces différences existent. Tant que l'humain existe encore, il y aura toujours des différences. C'est des choses naturelles. C'est à toi d'expliquer aux gens que ce n'est pas quelque chose de mauvais. Que c'est comme ça et qu'il n'y a rien de pernicieux.
C'est naturel et il y aura toujours ça, tu vois. Et par rapport à la lecture des mémoires d'un gay dérangé à l'Alliance, tu te rends compte en fait qu'il y a une cassure des opinions. C'est-à-dire qu'il y a des opinions vraiment...
C'est-à-dire que chacun a son opinion.
Il
y a des personnes contre et d'autres, il n'y a pas de
souci.
Tu vois, il y a une vraie cassure entre les mentalités. Il y a encore des gens qui ont cette tendance à déprécier, à diaboliser. Mais il y en a qui acceptent
qu'il y a plusieurs aspects de la normalité, tu vois.
Sinon,
il y a des gens aussi,
aussi qui s'en foutent.
Tant que ça ne les concerne pas, mais tu vois.
Quand ils assistent à ce genre de lecture, la plupart, ils sont juste assis. Ils regardent.
Ils sont concernés.
Il y a des gens, tu vois, qui sont super concernés. Certains sont concernés dans le rejet. D'autres, dans les raisons pour lesquelles vous êtes contre. Pourquoi vous rejetez? Pourquoi vous dépréciez? Alors qu'il n'y a aucune raison de le faire, d'avoir ce genre de réaction.
LGBT, déjà, c'est une grille de lecture, je pense, hein, qui permet de redéfinir les sexualités, les formes de sexualité. J'ai l'impression que c'est, tu vois, l'avenir du spectre de la sexualité. Et sinon, bien sûr que société djabon, ici, groupe sociaux djabon, ici, ils ont une manière d'intégrer, quand ils ne rejettent pas une forme qu'ils jugent marginal, quand ils ne jugent pas marginal un détail de leur de ce qu'il y a, des aspects de la normalité qu'il y a dans leur société, ben ils l'intègrent d'une certaine manière. Tu sais, être transgenre, c'est très bien intégré dans les groupes sociaux amérindiens, par exemple. Ils ont trouvé un moyen d'intégrer ça et ils attribuent ça au spirituel. Et si on cherche bien, je pense que tous les groupes sociaux peuvent, à un moment donné, quand ils font l'effort d'être dans la tolérance, mais pas dans le rejet. Vu que ça engage un rapport de force entre des groupes, des factions, des majorités et des minorités. Et des fois, il y a la majorité qui décide que l'ambiguïté, ça ne lui fait pas peur. Et elle décide de l'intégrer dans son fonctionnement général. Comme j'ai dit, les groupes sociaux amérindiens l'ont fait. Être transgenre, c'est très bien accepté, historiquement, au niveau des études sociologiques, on voit qu'ils ont su comment faire pour intégrer et pour trouver le support, le substrat spirituel pour intégrer une personne transgenre dans leur société. Et nous aussi, on peut le faire. On a des terminologies, on a un système de pensée qu'on peut adapter, je pense, hein, franchement, personnellement, je pense. Et comme tu l'as dit, une terminologie comme Sarbaf, ça peut très bien être employé à ça, à une redéfinition, à une acceptation de ça. Je dis ça comme s'il s'agissait de cet aspect-là, de la normalité. Sarbaf, au début, c'était un mot qui me faisait du mal. Mais au fur et à mesure, j'ai appris à connaître, à voir, à appréhender ce mot d'une autre manière. Alors, je trouve que c'est un mot qui va dans les deux sens. Que c'est comme, ça veut dire androgyne, en fait, je pense. Aujourd'hui, je pense que ça veut dire, c'est la manière dont... on pourrait le mieux traduire ce mot. Alors, qu'est-ce que je pourrais en dire de plus? C'est joliment imagé, hein, franchement. Ça serait comme un dessin, tu vois, une image, un dessin. Et tu dessinerais... je trouve que ça donne un élargissement de la définition des genres. Des fois, tu as une certaine forme de sensibilité très poussée. Tu es à fleur de peau. Et des fois, tu as plutôt l'impression d'être moins sensible, tu vois. Ça varie, en fait. C'est des émotions qui bougent dans ta poitrine, dans ta tête. C'est pas quelque chose que tu peux contrôler ou définir. Et du coup, un mot comme ça, je pense que c'est un mot bien choisi parce que ça permet, ça colle à ce va-et-vient, Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, pour moi, c'est, au début, c'est un mot qui veut blesser, mais quand on se le réapproprie, le mot, c'est adéquat. Mets-moi.
Oui, oui, ça me va.
Itano, ils ont tu démarres, oui, Itano, oui.
Tu vois, il n'y en a pas beaucoup qui seraient faites, mais qui seraient faites vraiment, mais il y en a dont tu te rappelles un peu. Par exemple, dans le milieu du showbiz, souvent les chanteurs, danseurs et danseuses, tu aperçois que là-bas, il y a telle personne, comme ci, comme ça.
Je sais, par exemple, que pour beaucoup, même moi, je l'ai connu. Étant petit, je l'aimais bien. J'aimais bien en fait sa manière d'être, sa personnalité. Elle est sans complexe, tu vois. Vayavshila,
par exemple.
Je sais que beaucoup apprécient en fait sa liberté d'être. Et je suis de ceux qui l'apprécient, qui apprécient sa liberté d'être. Mais aujourd'hui, en fait, ce qui me donne envie d'être masculin, tu vois, la masculinité, la manière d'être masculine qui m'attire, qui me donne envie de moi-même jouer avec ces codes-là, c'est des filles, les filles boyish, tu sais, les filles au style boyish et tout. J'adore leur style, j'adore leur mimique et tout, et je m'inspire de ça en fait, parce que je trouve ça très très canon. Je dirais que pour moi, la masculinité, déjà, c'est quelque chose, je trouve ça attirant. Pour moi, c'est une manière d'être. Tu sais, c'est une image archétypale, en fait. C'est très archétypal pour moi, l'image de la masculinité. C'est un homme silencieux, c'est à la John Wayne, tu vois. C'est vraiment le personnage silencieux qui mesure ses gestes, qui mesure ce qu'il dit, ce qu'il fait. Qui est un peu, tu vois, dans... C'est la substance, pour moi, la substance masculine, c'est vraiment ça, en fait. C'est cette force tranquille. Et en même temps, j'ai un rapport ambivalent à la masculinité parce que c'est quelque chose que j'ai envie de casser, tu vois. C'est une image du patriarcat que je voudrais déconstruire. Mais en même temps, c'est également, ça entre également dans le rapport à la séduction. J'ai envie de plaire, tu vois, quand j'ai envie de plaire au masculin, tu vois. Et c'est ambivalent. Alors du coup, je suis insolent par rapport à la masculinité parce que j'ai envie de déconstruire la masculinité. Mais en même temps, je suis... comme tu sais, comme un petit chaton, un petit animal qui voudrait, qui vient et qui voudrait qu'on le caresse. C'est un rapport ambivalent, ambigu. C'est de l'insolence et en même temps une envie de plaire. C'est ça en fait. Voilà. En fait, ma grande sœur et moi, on a 8 ans d'écart. Elle avait 8 ans quand je suis née. Et du coup, elle s'était préparée aussi, je pense, psychologiquement, à avoir un petit frère et elle voulait en fait m'en mettre plein la vue déjà de base. Et mon enfance a été en quelque sorte en coordination avec son adolescence à elle. Et du coup, moi aussi, je voulais l'impressionner. On était en fait dans le rapport fraternel, en fait, sororal, tout ça. Pour nous, c'était galvanisant. Et je voulais l'impressionner, elle aussi, parce que je la trouvais tellement intelligente, cool, géniale et tout. Et moi aussi, je voulais être cool, géniale et intelligente comme elle, tu vois. Et c'est pour ça que quand je pense à tout ce qui est créativité, imagination, envie de créer, de faire, ça se rapproche à elle, en fait. Elle est pour beaucoup. Dans cet aspect-là de ma personnalité, elle y est pour beaucoup. À la jeune génération, j'ai pas grand-chose à dire parce que je pense que, au niveau identitaire, Vraiment, c'est plutôt aux générations précédentes d'apprendre de cette génération, cette nouvelle génération, qui est quand même très, qui s'assume beaucoup au niveau identitaire, qui dit les choses, qui est sans complexe pour dire les choses, qui ne sont pas dans un rapport de comment on dit ça, d'allégeance par rapport aux générations Zokenjose, générations leurs aînés, mais qui sont plutôt vraiment dans leur propre approche, propre appréhension du monde. Et à cette nouvelle génération-là, je dis bravo, continuez et allez-y, quoi, foncez. Mais pour les gens en général, je dirais faites votre truc, soyez dans votre truc, faites votre truc, mais essayez quand même d'avoir un regard ouvert par rapport aux altérités, parce que les altérités existent. Voilà.
C'est la fin de notre troisième épisode. Un grand merci à Izika pour son amour, sa force et sa bienveillance. Et merci à vous qui écoutez. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain podcast dans quelques semaines avec d'autres perspectives, d'autres vécus. C'était Mintune. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Case Urbaine.